Elle s'appelle Marie-Luce Nadal. Je l'ai rencontrée il y a peu de temps, donc à la gare Saint-Sauveur. Et elle présentait une exposition tout à fait originale dans un, on va dire, une boîte, une pièce sombre. Elle avait donc conçu cette exposition à partir de nuages, d'extraits de nuages et de roches de montagne qu'elle a intégrées à des bocaux. Et donc cet encapsulement assez étrange était et toujours présenté à la gare Saint-Sauveur. Je vous propose d'écouter son concept et aussi son projet d'une manière plus globale. Marie-Luce Nadal.
Alors oui, bonjour. Donc les pièces que vous voyez là sont trois aquariums qui sont des petits conservatoires de nuages. Donc moi, ce que je fais, c'est que je récolte de l'essence pure de nuages par le biais d'une autre machine qui s'appelle la fabrique du vaporeux, qui n'est pas ici, mais qui a été installée dans les Alpes, au-dessus de Grenoble, et où je suis allée récolter cette essence pure de nuages. Cette essence, qui ressemble en fait à un miel, va pouvoir être redéployée dans chacun de ces petits aquariums. Elle va se dissiper, je viens sceller la cuve et le nuage peut apparaître et disparaître à nouveau à volonté.
Donc vous transposez des nuages?
Oui, c'est ça. Je viens récolter des échantillons que je vais pouvoir faire revivre à d'autres moments dans des environnements clos.
Donc c'est presque la culture que vous faites et vous ressemez ailleurs pour que les nuages puissent encore nous faire rêver?
Ben c'est ça, j'espère en tout cas, exactement. Et alors pour ces petits conservatoires, c'est la première fois que je fais interagir des pierres avec ces nuages récoltés. Les pierres ont aussi été récoltées au même endroit et c'était important pour moi de faire naître ces deux récoltes au même moment puisque il s'agit d'un tout nouveau filon qui vient d'être trouvé dans les Alpes. Donc c'est grâce à mon ami cristallier qui est allé extraire donc ces pierres que j'ai pu récolter donc ces trois rochers qui sont des roches de bisolite, c'est-à-dire que c'est une variété d'amiante native qui est logiquement extraite puisqu'on vient y chercher les pierres semi-précieuses qui se trouvent à l'intérieur. Et ce qui m'intéressait, c'était précisément de retrouver, au contraire, cette bisolite, cette amiante native et de la donner à voir, ouais, tout son aspect naturel.
Voilà, donc en même temps, c'est une œuvre qui, dans le temps, dans la durée, évolue pour l'œil puisque ça bouge, tout ça, c'est mouvant.
Oui, c'est ça, ça bouge.
Je ne sais pas si on peut dire que ça vit.
Oui, c'est vivant. Ce sont des nuages qui vont apparaître et disparaître continuellement au fil de la journée.
On peut dire votre nom ?
Alors, je m'appelle Marie-Luce Nadal.
Merci beaucoup.
Merci.
Toujours à la gare Saint-Sauveur, nous allons nous rendre maintenant dans un lieu que je ne connaissais pas trop sous ce nom-là. J'ai déjà visité cette maison qui s'appelle, qu'on appelle Maison Bikini, un lieu très ancien qui était très animé puisque il y a plus d'un siècle, c'était un lieu donc, on va dire, d'amusement, pour résumer. Voilà, donc un cabaret qui est situé à l'entrée du parvis de la gare Saint-Sauveur, que vous pouvez visiter, bien sûr, actuellement. Et d'ailleurs, une artiste l'a investi avec son exposition, qui s'appelle « Not a Place But a Feeling ». Elle s'appelle Bianca Bondi.
Bonjour, donc c'est Bianca Bondi, je suis artiste sud-africaine mais basée à Paris depuis 16 ans maintenant. Donc pour Nova Scène, j'ai fait une œuvre en situ qui s'appelle Not a Place But a Feeling, qui fait référence à l'histoire du lieu. Donc en fait, j'ai remis le lieu comme un cabaret, comme il était à l'époque.
Voilà, donc nous sommes ici à la gare Saint-Sauveur et il y a un genre de maison, on va dire, qui a eu une histoire un peu compliquée, enfin, qu'on ne connaît pas bien, enfin, vous la connaissez mieux que moi.
C'est tout simplement que c'était des bureaux SNCF et avec l'équipe ici, ils ont pu remonter dans le temps, chercher des anciens bails d'après la mairie. Et là, on a pu voir à qui ça a appartenu depuis son début et dont on a découvert que c'était un cabaret. Et je trouve ça assez beau et bien sûr, un cabaret à Lille, dans le 18e siècle, il n'y en avait pas 10 000. Donc c'est une histoire assez forte et surtout, je voulais rendre hommage aux femmes. Donc on trouve des indices partout. Des femmes cadrées sur les murs, des chaussures de femmes abandonnées à la fin. C'est une pièce assez féministe. C'est aussi une pièce qui parle de la vie passée, la vie à venir. Parce que, bien sûr, ça référence aussi Covid et les restaurants qui ont laissé sans personne. Et là, on a la vie des plantes, la vie moléculaire. Tout reprend. Parce qu'en fait, c'est une exposition qui est assez liquide au départ. Et tout se cristallise parce que c'est fait principalement à la base de l'eau salée et des réactions chimiques avec les métaux, du cuivre, il y a un peu de fer, voilà.
Donc, voilà, une activité abandonnée mais un lieu qui revit d'une certaine manière autrement.
Voilà, et je vous invite à le visiter le matin parce qu'il y a des beaux moments de soleil qui étincellent les pièces aussi, donc c'est visité à tout moment de la journée.
C'est bien noté. Merci beaucoup du conseil.
Merci Fabien.
Voilà, c'était donc Bianca Bondi. Nous restons à la gare Saint-Sauveur. Alors, on a été donc dans le lieu d'exposition. On est allé aussi dans cette maison un peu étrange en ce moment. Et on va maintenant aller dans la cour où il y avait, quand j'y suis allé récemment, hein, il y avait un camion, un bus, enfin... Voilà, un objet itinérant, un objet roulant. Et donc, il s'agissait en fait, quand j'y suis entré, d'un lieu d'exposition, mais un musée mobile. Et donc, c'est le MUMO, Musée Mobile Gratuit d'Art Contemporain, qui existe depuis un bon moment, mais qui là, s'est un peu orienté pour Utopia, dans une exposition particulière. Et donc, cette exposition... Elle a bien sûr un certain nombre d'artistes qui sont issus, des collections, qui sont des œuvres plutôt, qui sont issues des collections des FRAC de la région. Donc quand je dis la région, c'est donc le FRAC Grand Large et le FRAC Picardie. Et puis il y a aussi le Centre National des Arts Plastiques qui a donné un petit coup de main donc pour cette exposition que vous pourrez voir en itinérance. Donc il y a un programme jusqu'au 23 août. Je vous invite à aller le visiter, ce programme, sur par exemple Frac Grand Large, etc. Vous pourrez retrouver ça ou sur le site MUMO. Voilà, je vous propose d'écouter cette interview de la personne qui s'appelle Lucie Avril et qui est la responsable opérationnelle en charge de la coordination des tournées donc de ce MUMO et qui présente donc le dispositif et les œuvres que vous verrez ou que vous pourrez voir sur la route. Voilà, on écoute donc cette interview de Lucie Avril dans le MUMOtopia, la version 2022 donc du MUMO pour cette exposition itinérante. Initié en 2011, le MUMO est un musée mobile gratuit d'art contemporain destiné à aller à la rencontre des enfants sur leur lieu de vie. De mai à août 2022, le MUMO est en itinérance dans la métropole européenne de Lille avec l'exposition MUMOtopia à la rencontre des publics scolaires, extrascolaires et des habitants en proposant formation, ateliers, visites et rencontres. Je vous propose une visite guidée avec Lucie Avril.
C'est un musée qui a été fondé par Ingrid Brochard il y a 11 ans. Et le principe, c'est comme le bibliobus transposé à l'art contemporain. On se déplace avec des œuvres d'art au plus près des habitants, donc en plein cœur des villages ou des quartiers. Et donc, on propose des visites, des ateliers de pratique artistique, des temps de rencontre. L'idée, c'est aussi de contribuer à créer du lien social, à créer de la rencontre entre les gens. Et donc, on s'installe plusieurs jours ou plusieurs semaines dans un lieu. Et puis, on voit ce qu'il advient. Voilà.
Donc, un lieu de la métropole ?
Alors, cet été, on va circuler dans une soixantaine de communes de la métropole avec MUMOtopia, qui est une exposition curatée par l'artiste Grant Lévy Lucero, notre fondatrice Ingrid Brochard et notre directeur artistique Arnaud Devaux. Et donc, c'est une exposition conçue à partir des collections du Centre National des Arts Plastiques et des Fonds Régionaux d'Art Contemporain. Grand Large et Picardie. Et donc l'exposition a été conçue sur le thème de l'enfance, du jeu, de la spontanéité, du faire, de l'expérimentation, de la découverte du rapport au vivant également. Donc on transporte 26 œuvres d'art de toutes les époques, tous les médiums sont représentés. On a de la céramique avec Nathalie Crassé, Sylvie Auvray, on a une vidéo de Laurent Grasso, une photographie de Denis Oppenheim par exemple. Et donc l'idée, c'est d'aller s'installer dans les quartiers, d'accueillir les classes, les habitants, pour leur faire découvrir ces œuvres.
Alors ces œuvres-là, est-ce qu'elles sont adaptées plutôt aux enfants ou d'une manière générale aux habitants que vous allez inspirer dans les quartiers peut-être ?
Ben, c'est des œuvres qui sont adaptées à tous les âges, c'est ça la magie de l'art, c'est qu'une œuvre a son propre mystère, sa complexité et propose plein de niveaux de lecture. Donc en fait, chaque œuvre peut être regardée de plein de manières différentes.
Donc il y a quelqu'un qui choisit, qui sélectionne et après il y a des médiateurs, j'imagine, pour expliquer, les présenter.
Oui, en fait, on propose aux enfants de se positionner devant l'œuvre qui les intéresse le plus dans le camion. Ils font le tour du camion. Et à partir des petits groupes qu'ils forment, le médiateur va construire une visite sur mesure à partir de leurs choix, de leurs émotions. Et donc, ils vont prendre le temps de discuter autour de chaque œuvre. Voilà.
Une séance, ça prend une heure à peu près ?
Alors, c'est 1h30 d'activité en tout, donc 45 minutes de visite et 45 minutes d'atelier de pratique artistique.
Voilà, donc le camion s'appelle le MUMO, c'est ça ?
Oui, le musée mobile. Et vous pourrez retrouver notre parcours sur notre site internet www.musée-mobile.fr. Voilà.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'expériences de ce type en France ?
Alors, il y a d'autres dispositifs mobiles qui existent. Les FRAC ont vocation à faire circuler leur collection. Il y a par exemple le Satellite, qui est un utilitaire qui se déplace avec des œuvres du FRAC Franche-Comté. Pardon. Et nous sommes en train, nous allons inaugurer bientôt le MUMO X-Centre Pompidou, qui sera un autre camion dédié aux collections du Centre Pompidou. Donc, on continue avec la mobilité.
On pourrait imaginer justement des déplacements d'un camion à l'autre pour irriguer les régions de tous les fracs, etc.
Oui, ça serait formidable d'avoir une flotte de camions musées. On aimerait beaucoup. Là, on va avoir bientôt 2 camions. On espère que si on se revoit dans 10 ans, on pourra vous parler de nos 10 camions, peut-être.
Là, on peut dire que c'est un camion, donc il est quand même large, grand.
Oui.
Pas facile à transporter.
Alors, c'est un semi-remorque de 20 tonnes qui peut se déplacer sur toutes les routes. C'est l'équivalent d'un camion de pompier. Et c'est très ingénieux. Il a été conçu par la designer Mathalie Crassé comme un camion qui se déploie à l'horizontale, qui ouvre des espèces d'ailes rouges sous lesquelles on peut trouver un abri pour faire des ateliers. On peut y accrocher des œuvres. Et à l'intérieur, Mathalie a pensé une scénographie assez chaleureuse avec des éléments en bois qui viennent réchauffer le lieu, des panneaux qui permettent d'installer des œuvres, de les réunir, un système de pinces qui permet d'accueillir des œuvres plus grandes et des tiroirs et des placards qui accueillent des œuvres cachées. Je ne sais pas si vous avez vu la céramique de Mathalie Crassé qui est cachée, je vais vous la montrer. Alors, Mathalie, elle remet en question justement la notion d'usage de la céramique pour la cuisine ou pour la vaisselle. En fait, elle a réalisé donc un petit service de porcelaine à partir d'un module qu'elle a décliné. C'est un petit peu l'idée de l'origami, c'est de la feuille de céramique, c'est comme si c'était plié. C'est d'une très belle couleur verte. On a une espèce d'assiette ou de coupe, on a des espèces de petits ramequins, des bols, sauf qu'ils ont des trous, ils ne permettraient pas réellement d'accueillir de la nourriture. Donc c'est comme une invitation à réinventer en fait le rituel du repas, peut-être de créer des nouveaux scénarios d'usage, comme elle les appelle. Voilà.
Donc en correspondance, on a des céramiques là, très particulières, des masques. Et là, ils sont, on va dire, élaborés à très haute température.
Oui, alors c'est 2 céramiques de Sylvie Auvray, c'est du grès en fait, donc la cuisson est à 1300 degrés. Et ce qu'elle aime beaucoup avec le grès, c'est que c'est toujours l'inconnu, la surprise quand elle va chercher ses céramiques dans le four. Il y a des émaux qui sont déposés sur la terre, donc c'est ça qui va donner, qui va colorer la céramique. Mais il y a toujours une surprise sur la couleur que ça va prendre, sur la surface que ça va couvrir. Et donc c'est un petit peu un jeu d'enfant d'aller chercher quelque chose qui est nouveau au final pour elle aussi.
Voilà, parfois ça marche, parfois ça ne prend pas, hein, tout dépend du degré de cuisson, puis il y a des paramètres peut-être pas forcément maîtrisables.
Oui, mais c'est justement intéressant d'intégrer dans le travail de l'artiste cette marge de hasard, de ce qu'on pourrait considérer comme une erreur, et d'en faire vraiment une démarche artistique.
Donc en parallèle, on peut montrer des choses qui auraient une correspondance également sur le mur d'en face.
Oui, alors justement sur cette idée d'intégrer le hasard dans le processus artistique, on a aussi 2 œuvres de Christine de Knuit. On a la connivence capillaire qui nous montre des silhouettes sans doute de singes sur un fond orangé très, très brillant. Elle travaille beaucoup avec des produits chimiques qu'elle va appliquer sur sa feuille et qui vont venir changer son dessin. Donc elle laisse entrer le hasard aussi dans sa démarche. Et l'autre petit dessin qu'elle nous présente là-bas s'appelle Singe gauche. Et c'est un petit singe bleu qu'elle a dessiné entièrement avec sa main gauche. Donc elle laisse aussi, voyez, cette marge d'erreur intégrée. Voilà, son travail d'artiste.
Toujours avec Lucie Avril, nous poursuivons l'exploration des ressources du camion mobile du MUMO en version Mumotopia pour l'île 3000 avec la partie vidéo et photographie.
Oui, alors on a une très belle photographie de Denis Oppenheim qui est un petit peu comme à l'origine des céramiques de Mathalie Crassé et de Sylvie Auvray, puisqu'on a un enfant qui plonge ses mains dans la boue, dans la terre, qui a les bras recouverts de terre, qui est en action. On comprend qu'il y a un mouvement push-pull de pousser, tirer la terre pour en faire émerger peut-être une forme, une sculpture. C'est une performance qui a été réalisée au début des années 70, dont il a voulu garder une trace. Donc c'est toujours la même question. Est-ce que l'œuvre, c'est la performance? Est-ce que c'est la photographie de la performance? Vous voyez qu'il a séparé la légende où c'est écrit « Push, pull on mud, Brooklyn, New York, 1970 ». C'est séparé de la photographie de cet enfant. Donc c'est comme s'il considérait vraiment l'instant de la performance comme une œuvre en soi. Intéressant.
Alors après, il y a des choses que je trouve assez étonnantes pour des enfants. Je pense que ça doit frapper leur imaginaire. C'est cet escargot qui est tout au bout d'une, alors je vais dire un chemin qu'il a tracé peut-être avec ces choses qui traînent derrière lui, qu'il laisse, qu'il dépose.
Oui, alors d'ailleurs on se questionne sur, parce que c'est une photographie d'escargot qui a été imprimée sur une plaque en alu. Ce qui est très étonnant, c'est que la trace qu'il laisse, d'abord il y a la couleur, c'est une trace de couleur bleue qui reflèterait le ciel, ce qui lui donne sa couleur. Et d'ailleurs le titre de cette œuvre, c'est « L'infini ». Et il y a cette forme qui évoque le signe de l'infini, justement. Donc on s'est questionné, nous, sur comment a-t-on pu faire suivre ce circuit à l'escargot. Est-ce qu'on lui a déposé des petits bouts de feuilles de salade pour qu'il suive? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, l'artiste, on parlait de la notion de hasard avec des produits chimiques, avec la cuisson. Là, c'est le hasard du vivant. C'est un artiste qui fait travailler le vivant. Il a fait toute une série avec des escargots qui reproduisent toutes les lettres de l'alphabet. Il a fait un abécédaire, donc là on a l'infini. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y trouver une référence à l'histoire de l'art. Alors c'est un souvenir personnel, mais d'avoir vu dans un tableau de la Renaissance un petit escargot dessiné en trompe-l'œil sur le bord du cadre. Et apparemment, dans l'histoire de l'art, j'avais retenu que ça pouvait avoir la signification justement de la perfection, comme si c'était le signe un petit peu d'une présence divine, en tout cas de l'infini, de la perfection, à cause de la forme de la coquille qui est ronde et parfaite.
Donc là, cet infini qui est symbolisé, on voit donc la courbe, le dessin de l'infini, mais qui n'est pas totalement sur la deuxième boucle terminée. Cet escargot continue son chemin, il prend son temps. Et donc la vidéo, vous présentez dans cet espace qui est un espace où on peut fermer le rideau, etc., isoler un peu de cette salle d'exposition.
Oui, tout à fait. Alors c'est notre black box, donc c'est une salle vidéo qui a été aménagée à l'avant du camion, qu'on peut totalement refermer grâce à un rideau noir qui nous plonge dans l'obscurité et qui nous met face à une vidéo de Laurent Grasso qui s'appelle L'Éclipse. En fait, il a reproduit un phénomène naturel presque impossible, qui est une éclipse doublée d'un coucher de soleil. Il l'a reproduite numériquement avec l'aide de l'École supérieure d'art de Valenciennes. Et il nous questionne en tant qu'être humain sur le fait que nous sommes en train de... comment de mener des actions de plus en plus dangereuses contre le vivant et contre la nature, et du fait que beaucoup de phénomènes naturels sont en voie d'extinction, de disparition, et du fait que peut-être nous allons de plus en plus être obligés de les fabriquer pour pouvoir les voir y assister.
Voilà, donc un espace mobile qui est petit mais qui fait le maximum, et de diversité aussi, maximum de diversité, c'est ce qui est intéressant, bien sûr, pour éveiller la curiosité, les enfants de toute cette belle région et aussi leurs parents.
Tout à fait, c'est un petit musée mobile avec de grandes questions à l'intérieur, absolument.
Donc ce musée, on pourra le voir cet été ?
Oui, donc on va circuler dans toute la métropole européenne de Lille. Donc 60 communes vont nous accueillir, une soixantaine. Et vous pouvez retrouver tout notre parcours sur le site de Lille 3000 ou celui du MUMO, www.musée-mobile.fr.
Alors vous accueillez des œuvres aussi du frac de Picardie, j'ai bien compris. Est-ce que il y a un équivalent là-bas, ou est-ce qu'on lèse les gens de Picardie ?
Vous voulez dire s'il y a un camion en Picardie ? Non, alors, mais après, le musée mobile a vocation à travailler, à circuler sur les territoires des fracs. Donc on espère y aller très prochainement.
On espère que vous allez pouvoir vous y projeter, oui, bien sûr. Absolument. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci. Bella.
Voilà, c'était Lucie Avril qui présentait magnifiquement hein, ce camion itinérant artistique, le Mumotopia en route, donc jusqu'au 23 août. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le FRAC Grand Large par exemple, ou sur Mumo, où vous aurez les dates. Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, c'était notre séquence, donc Utopia. Tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de structures culturelles de la métropole de Lille s'investissent dans ce projet Utopia cette année, notamment l'Attitude Contemporaine. On va retrouver Maria Carmela Mini, directrice donc de l'Attitude, qui nous présente le projet de cette année. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directrice du festival Latitude Contemporaine qui pour la 20e édition se représente aux yeux cette année d'un vrai public, dans une ambiance et on va dire des conditions qui sont quand même beaucoup plus favorables que l'année dernière.
En effet, parce que donc on va retrouver notre public déjà à des jauges à 100%, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc évidemment, c'est très pénalisant. Et aussi retrouver une ambiance de festival avec des fêtes, avec des moments de convivialité qui sont extrêmement importants, évidemment.
Donc le festival Attitude Contemporaine, depuis son début, quand on voit les spectacles, la programmation, on se dit que c'est un festival engagé. Il est engagé en quoi et comment cet engagement a évolué au fil du temps ?
Alors en fait, engagé parce que depuis plusieurs années, hein, on prend en charge une réflexion en tous les cas autour de sujets de société tels que la question du genre, la question de la parité, la question des femmes dans la société, l'égalité des chances, etc. Enfin, plein de problématiques sociétales. Et donc cette année, ça sera sur des questions de développement durable au sens large du terme. Depuis la création du festival, on est dans cet axe-là de travail, enfin, d'essayer de que les spectacles apportent une réflexion et sur des sujets. Mais ce qui a un peu changé, c'est notre manière de l'assumer. Je dirais que ça c'est, on l'a assumé de plus en plus et on l'a presque maintenant revendiqué en fait. Et quand on parle du festival et de sa programmation, on en montre la cohérence en insistant sur justement les axes de travail.
Donc au-delà des axes de travail, on a aussi des invités, des artistes. Certains d'entre eux traversent des moments difficiles dans les pays dans lesquels ils vivaient. Et ils sont arrivés peut-être un peu par hasard ici en France. Et vous, vous les avez intégrés à un projet culturel pour un festival où ils vont mettre en scène, en visibilité du public, leurs préoccupations.
Absolument. Donc, en effet, on a été très engagés, en particulier sur, on peut dire, l'exfiltration d'artistes afghanes et afghans pendant le mois d'août de l'année dernière, hein, au moment où les talibans arrivaient. Et en complicité, on va dire, avec Kubra Academy, hein, qui est une artiste afghane qu'on accompagne maintenant depuis 2015 en développement de projets, en production, nous avons fait sortir de nombreux artistes d'Afghanistan qui, aujourd'hui, pour certaines et certains d'entre eux, sont en effet à Lille et avec lesquels on essaye de construire des projets de vie, puisque en effet, sortir de son pays et reconstruire un projet de vie, ça peut pas se faire sans le soutien de personnes qui connaissent parfaitement l'écosystème dans lequel on arrive.
Alors, au-delà de l'Afghanistan, on pourrait signaler l'Iran, qui n'est pas terrible aussi par rapport à l'expression de la femme, hein, notamment en chant, danse, etc. Et un pays qu'on connaît moins sous ce registre-là, c'est la Tunisie.
Tout à fait. Donc, vous citez deux pays dont on va présenter deux artistes. Hein, donc, Ali Mouani, qui est iranien et qui, en effet, ne peut pas travailler dans son pays. Il est chorégraphe. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de travailler comme chorégraphe en Iran. Pour la petite histoire quand même, pour souligner ça, c'est que aujourd'hui il y a des artistes qui sont obligés de signer des documents indiquant qu'ils s'engagent à ne pas être artistes et qu'ils s'engagent à ne pas faire de création pour que le gouvernement iranien les laisse tranquilles. Donc on est dans une absurdité totale. Et puis en effet, en Tunisie, avec Mohamed Toukabri, qui en effet a dû partir de Tunisie pour exercer son travail de danseur et de chorégraphe également, parce qu'il ne pouvait pas l'exercer dans son pays.
Vu de France, on a du mal à comprendre ces façons d'être et ce carcan, hein, d'une certaine manière, parce qu'on s'est habitué à une certaine liberté, malgré tout. On dit toujours, on critique. Comment préserver ça et comment aussi communiquer que cette liberté est importante dans le monde, au-delà de ce qu'on voit avec ces tentatives d'imposer à des pays qui n'en ont pas l'envie des relations de domination d'une certaine manière aussi?
Je pense que la problématique est beaucoup plus large que les questions de la culture. Bon, on sait très bien que dès qu'un pays commence à être dictatorial, en tous les cas à resserrer les libertés humaines, ce sont en premier lieu les artistes qui sont attaqués. Et je dis souvent, l'art et les artistes sont les garants de notre démocratie, parce que les journalistes également, hein, mais dès qu'un pays commence à se refermer, les premiers attaqués, ce sont les artistes et les journalistes. Et donc, comment faire ? Moi, je suis pas une politique qui travaille sur les questions géopolitiques et internationales. J'ai pas cette prétention du tout. Ce qu'il faut faire, c'est résister en permanence et en effet accueillir ces artistes qui arrive justement en France, qui est un pays où il y a encore cette liberté de création qui est préservée et protégée, et essayer de faire en sorte que nous soyons les plus hospitaliers possibles. Quand on a décidé de faire sortir et d'accueillir des artistes afghanes ici en France avec Kubra, c'était aussi pour préserver un patrimoine immatériel, parce qu'on faisait sortir des artistes qui détenaient un savoir-faire qui risquait de disparaître si les personnes restaient en Afghanistan. Et donc on peut faire des actions de ce type, mais je me vois mal. Enfin, je suis pas à la Commission européenne. Donc je fais ce que je peux faire là où je suis. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que cette résistance, elle n'est pas seulement contre des pays totalitaristes, c'est en France aussi. Je pense qu'on a à être très très vigilant. On est souvent amené à faire du militantisme ou de la résistance face à des situations qui nous paraissent totalement invraisemblables. Je prends comme exemple là, donc Cobra Academy a fait l'affiche du Festival d'Avignon parce que il y a des femmes nues sur l'affiche, des femmes nues dessinées, hein, dessinées de manière très naïve, et alors qu'il y a pléthore d'affiches de femmes nues dans les publicités, etc., exposées, on regarde tous dans la voie publique, ça gêne personne. Par contre, des dessins de femmes nues, ça pose problème. Donc voilà. Et la semaine dernière, il y a eu une pétition pour faire retirer cette affiche. On est en France et c'est Festival d'Avignon. Donc évidemment, il faut résister face à ça. Parce qu'en fait, évidemment qu'on pourrait être tenté, pour éviter d'avoir ce type de conflit, de ne plus mettre de femmes nues l'année prochaine, par exemple. Et en fait, c'est laisser un territoire. Le pire serait, de toute façon, c'est de s'auto-censurer. Et moi, je fais extrêmement attention vis-à-vis de moi-même de ne jamais tomber dans ce piège, c'est-à-dire de toujours me poser la question de est-ce que je m'autocensure quand je fais pas telle chose ou que je veux, quand je ne veux pas montrer tel spectacle, et parce que c'est une manière aussi de résister.
Est-ce que depuis 20 ans, il y a des spectacles qui ont été présentés dans le cadre de l'attitude et qui ne pourraient plus l'être, justement, par rapport à ces visions un petit peu restrictives, hein, de ce qu'on peut dire et, ou pas dire.
Oui, je pense que les choses se sont resserrées, en effet. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, comme je le disais précédemment, c'est-à-dire que c'est à chacun d'entre nous, programmatrices et programmateurs, de faire attention à savoir est-ce que je m'autocensure. Moi, j'essaye de ne pas le faire. Enfin, je vérifie en tous les cas que je ne le fais pas. Je pense que oui, il y a des. Aujourd'hui, il y a des spectacles qui ne pourraient plus jouer. Et ça, c'est depuis quelques années. Comme ça, de mémoire, je repense au spectacle de Rodrigo Garcia, où on voyait les extrémistes catholiques là empêcher les gens de rentrer dans les théâtres pour aller voir le spectacle. C'était d'une stupidité sans nom, mais je pense que ça s'est un peu aggravé. Alors est-ce que c'est lié à la pandémie? Est-ce que je voilà, mais c'est sûr qu'il faut qu'on soit très très vigilant et poursuivre cette résistance.
Donc convaincre le public de l'attitude, ça paraît logique, mais il y a aussi les autres publics qu'il faut parfois aller chercher, d'où l'importance de la médiation.
Absolument, et donc pour moi la médiation est aujourd'hui beaucoup plus importante qu'il y a quelques années, alors que il y a de moins en moins d'argent pour soutenir la médiation, et ça c'est grave, parce que les pouvoirs publics aujourd'hui, que ça soit les collectivités territoriales et un peu l'État, même s'il fait un travail différent et qui est... Il y a des tentatives à travers le Pass Culture qui se mettent en place, mais en tous les cas, il y a un recul sur les soutiens à la médiation, et je trouve que c'est une erreur totale, parce que on n'en a jamais eu autant besoin. C'est-à-dire que pour que le public, pour l'éduquer, je pense en particulier aux jeunes publics qui, pour certains, n'ont pas vu de spectacle pendant 2 ans, alors que c'est l'âge où on se forme en tant que spectateur, hein, où on commence à aller voir des spectacles au lycée, au collège, etc. Enfin, pendant 2 ans, ils n'ont pas eu accès à ces spectacles. Donc comment on fait pour que ces jeunes qui ont été éloignés de la culture pendant plusieurs années, pendant cette pandémie, Les outils de compréhension de la création et des spectacles. Et c'est pas. J'étais invitée à un colloque au printemps de Bourges pour parler de ces questions-là. Et il y avait le représentant du Pass Culture du ministère de la Culture qui était à la même table ronde que moi. Et je lui disais, mais si le Pass Culture ne s'appuie pas sur de la médiation faite par des médiateurs dont c'est le métier et qui ont un regard professionnel sur ces questions-là, c'est comme si vous donniez un chèque de consommation à des jeunes. Ok, ils vont gagner du pouvoir d'achat pour s'acheter des disques ou enfin pour aller sur des plateformes de ou aller s'acheter des bandes dessinées, mais enfin c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, donc moi je vais commencer, je pense, à militer là à nouveau pour que il y ait de nouveau des moyens qui soient mis pour la médiation.
Donc l'interface entre le festival et le grand public, peut-être celui qui n'est pas encore venu voir des spectacles, on ne peut que l'encourager, ce sont les affiches. Quelques mots sur cette affiche des 20 ans ?
Oui, alors là aussi, ça dit qui on est, enfin vraiment de manière très très claire, hein, donc et avec des slogans vraiment qui mettent face à des questionnements de la société justement. Donc cette année, ces slogans, c'est alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc par exemple, un des slogans. donc on peut, quand on le lit, on va le voir dans la ville affiché. Voilà, ça peut interpeller quand même.
J'aime bien créer le temps au lieu de l'épuiser.
Tout à fait, créer le temps au lieu de l'épuiser, c'est pas mal non plus. Ouais. Donc et puis être ou être, telle est notre question. Et là aussi, c'est vraiment ce qu'on essaye de comme on essaye d'interpeller le public à travers les spectacles et à travers les débats, la médiation, etc., qu'on met en place lors du festival et avant et après le festival, des affiches jouent ce même travail, enfin participent de ce même travail, c'est-à-dire d'aller questionner et de mettre le public face à des questions. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait ? Avec un point d'interrogation, c'est « alors qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, et vraiment, j'aime beaucoup cette manière d'interpeller les gens.
Bien, merci beaucoup, Maria Carmela Mini. Donc, rendez-vous pour ce festival qui démarre le 8 juin.
Absolument. Donc, on sera ravis de vous accueillir. Merci.
Voilà, et bien sûr, Radio Campus est pour la 20e année un partenaire de ce festival.